Avec le CCFD Terre Solidaire, nous sommes en route vers l'agroécologie. Depuis la semaine dernière, nous sommes dans le Niger et nous sommes aujourd'hui avec des agriculteurs du Niger, membres de l'association Moriben qui est partenaire du CCFD Terre Solidaire. Ils vont nous parler de leur métier d'agriculteur au Niger et surtout pourquoi ils ont choisi de s'engager dans le développement de l'agroécologie. Nous continuons donc notre entretien. Nous vous demandons de bien vouloir nous excuser par avance de la qualité de la liaison, mais nous avons été obligés de faire cette liaison par un système de WhatsApp et le son n'est pas toujours très clair. Mais ces témoignages méritent vraiment que malgré la mauvaise qualité de son, vous puissiez l'entendre. Est-ce que vous êtes mécanisé et quelle est la place de la production industrielle dans ces petites exploitations ?
Je sais pas, c'est heureusement ou malheureusement. L'agriculture au Niger, comme certains disent rudimentaire, est vraiment en grande partie traditionnelle. Les gens utilisent les hilaires, les houes, les dabas pour travailler dans toutes les petites exploitations familiales. Mais cependant, il existe des initiatives que l'État a introduites pour machiniser pour que les producteurs puissent utiliser les tracteurs et faciliter la main d'œuvre. Mais nos sols sont des sols légers, malheureusement, sols très légers, qui ne supportent pas parfois l'utilisation de ces machines. Voilà, c'est pourquoi, en grande partie, malgré les différentes tentatives de machinisation, cela n'a jamais marché. De l'autre côté, l'utilisation des machines demande un gros coût. Et toutes les exploitations, 95% des exploitations sont familiales. Et les exploitations familiales n'ont pas les moyens parfois d'utiliser les coûts d'utilisation de ces tracteurs ne sont pas à leur portée. Donc du coup, les gens préfèrent rester dans l'utilisation des outils traditionnels que nous connaissons.
Alors c'est-à-dire, ce sont par exemple une bête qui va traîner pour faire les sillons, comment ça se passe en fait? Ou c'est tout est fait à la main?
Oui, pour les ménages les plus nantis, ils ont un père de bœuf ou un âne qui traîne une charrue et qui pour faire des sillons.
Oui.
Mais pour la grande majorité, c'est vraiment le travail à la main avec la houe, la hilaire, la daba. C'est vraiment pour la grande majorité, ce sont ces matériels que les gens utilisent. Mais les ménages les plus nantis arrivent à utiliser les bêtes de trait, deux vaches ou un âne pour traîner la charrue et faire des sillons.
Alors, on parle d'agroécologie au Niger. C'est quoi votre objectif de ce développement de l'agroécologie?
L'objectif de développement de l'agroécologie, elle est vraiment multiple. Le premier objectif, c'est qu'avec les changements climatiques, je l'ai dit tantôt, la qualité de nos semences ne sont plus adaptées. Donc, il faut trouver des semences qui sont adaptées aux conditions climatiques actuelles.
Oui.
Et également, il faut qu'on puisse créer les conditions pour que ces plantes s'adaptent. Et pour ça, les terres qui, généralement, les terres perdues, ou les terres qui, à cause du changement climatique, n'arrivent plus à emmagasiner suffisamment de réserves en eau pour faire nourrir les plantes. Nous intervenons avec les producteurs pour donner vie à ces sols. Donner vie à ces sols en faisant des ouvrages de récupération des terres et de conservation de l'eau dans le sol, de sorte que le peu de pluie qui tombe puisse s'infiltrer et rester comme une réserve pour la plante.
D'accord.
Également, apporter des amendements pour le sol pour que la plante puisse avoir suffisamment d'éléments pour boucler son cycle végétatif avec des fertilisants biologiques sans faire recours aux produits de synthèse qui sont également coûteux. Ce n'est pas à la bourse de tous les producteurs du Niger. Le sac d'engrais ici au Niger de 50 kilos, même avec la subvention de l'État, coûte actuellement au cours de 18 000 francs. 18 000 francs, ce n'est vraiment pas à la portée de la plupart des ménages. D'accord. Donc, c'est tous ces aspects qui font qu'on se tourne vers l'agroécologie.
Et cette agroécologie et ces travaux qu'il faut faire, c'est aussi grâce à votre association, grâce à Moriben ?
Oui, c'est également grâce à notre association, oui. Et également grâce à l'appui des partenaires. Parce qu'il y a des connaissances qui sont exogènes. Les pratiques de récupération des terres, quand une communauté adopte une pratique qui a bien marché, alors on prend la technologie et on l'amène ailleurs dans une autre communauté pour qu'il l'adopte. Mais pour faire cela, pour faire ce transfert de technologie, ça a besoin de moyens. C'est vraiment dans ce transfert de technologie d'une localité à une autre en assurant le renforcement de capacités au niveau local, en renforçant l'expertise au niveau local.
Donc, vous n'utilisez pas des intrants chimiques, hein, tout est naturel.
Vraiment, tout est naturel dans la limite du possible. Il arrive que des producteurs puissent utiliser des produits de synthèse au cas où ils n'arrivent pas à trouver suffisamment de produits naturels. Mais vraiment, la tendance actuelle est tournée vers le tout naturel.
D'accord. Alors, comment les producteurs qui sont membres de votre association et de Moriben se distinguent des autres producteurs dans les villages ?
Le producteur qui travaille avec Moriben est vraiment plus résilient. Plus résilient en ce sens que il a la possibilité d'accéder à un encadrement agricole lui permettant de s'adapter facilement au contexte de climat qui change. Et il a également l'accompagnement de nos animateurs endogènes, de nos conseillers agricoles qui sont dans nos zones pour lui dire quelles semences adopter, quand il faut semer, quand ne pas semer, quand est-ce qu'il faut récolter. Bref, des choses qui sont vraiment importantes dans l'itinéraire technique agricole. Également, être membre de Moriben, c'est la facilité d'accès aux intrants de production. Et intrants de production et également au crédit pour investir dans des activités génératrices de revenus et tout cela grâce aux appuis que nous recevons de nos partenaires comme le CCFD. Comme le souhaité au départ, la misère est finie là. Vraiment, quand tu vas au village, quand tu vois un producteur qui est membre de Moriben, il se distingue tout de suite de l'autre producteur par le fait que, avec sa production et avec son revenu, il peut assurer ses trois repas quotidiens pour l'ensemble de son ménage, ce qui est quand même exceptionnel. Et dans un pays où chaque année, bon an, mal an, 2,5 millions de la population ont toujours besoin d'assistance alimentaire.
Idrissa, vous êtes en compagnie d'un producteur. Est-ce qu'on pourrait parler avec ce producteur pour savoir, lui, comment il vit au quotidien ?
Donc, on a M. Tini Jibo avec nous, qui est producteur, et une autre qui est transformatrice, elle s'appelle Oumu. Donc, on va commencer par M. Tini Jibo. Je vais vous le passer et il va se présenter et il va répondre à vos questions.
Bonjour. Vous êtes donc producteur et membre de Moriben. Alors, comment vous vivez, vous, au quotidien, étant producteur au Niger ?
Moi, je m'appelle Tini Jibo. Je suis membre de Moriben Producteur. Pour vous expliquer que moi, en tant que producteur, je vis de ma production. Je travaille le champ, je fais la culture de céréales en temps de pluie. Après les temps chasses, je fais le maraîchage. Mon taux de couverture ne dépasse pas 4 mois de production.
Oui.
Mais arrivé à Moriben avec les renforcements des capacités que j'ai eues et les techniques que j'utilise pour produire, j'ai présentement un taux de couverture de 8 mois.
Qu'est-ce que vous appelez un taux de couverture ?
Le taux de couverture, c'est mon besoin alimentaire par an. Ce que je produis, je peux nourrir pendant 8 mois. Alors, par avant, quand je n'étais pas membre, quand j'utilisais les techniques archaïques que j'ai trouvées avec les ancêtres, mon taux de couverture ne dépasse pas 4 mois.
Et alors, il vous manque 4 mois pour finir l'année. Comment vous y arrivez?
Voilà, c'est la raison pour laquelle je dis je retourne à la petite irrigation pour combler l'année.
Et alors, vous avez parlé tout à l'heure de maraîchage.
Oui, c'est ça la petite irrigation.
La petite irrigation. Alors, vous cultivez quoi, du coup, avec la petite irrigation?
Avec la petite irrigation, nous produisons du moringa, nous produisons du poivron, de la tomate, des courges et des melons.
Ce sont des choses que vous vendez à qui après, du coup?
On vendait ça au marché local.
D'accord. C'est une consommation locale, en fait. Hein. Tout ce que vous produisez...
C'est une consommation.
Il n'y a pas d'export vers des pays étrangers?
Pour le moment, non.
D'accord.
La quantité ne suffit pas pour exporter.
Alors, si je comprends bien, avant, vous arriviez pratiquement à vivre que 4 mois dans l'année. Et depuis que vous avez adhéré à Mouriben, vous arrivez pratiquement à vivre toute l'année.
Oui, toute l'année, oui.
Et vous avez donc une exploitation de combien de superficie et votre famille se compose de combien de personnes?
J'ai une superficie de 3,5 hectares pour le mine et 1,5 pour le maraîchage. Ma famille, j'ai 10 membres dans ma famille.
10 membres, d'accord. Quel est le rôle de chaque membre de votre famille? Comment ça se passe le travail? Le rôle des femmes, le rôle des garçons, le rôle des enfants, des hommes? Comment ça se passe?
Bon, les braves valides que j'ai, je travaille avec eux au champ. Ceux qui ont plus de 18 ans. J'ai 3 frères qui travaillent avec moi. Ça fait 4. Les enfants vont à l'école. Les femmes nous préparent à manger. Et les femmes ont, eux aussi, leur petit champ dans lequel elles produisent du gombo et autres. Du sésame et de l'arachide.
Et c'est elles aussi qui vendent au marché?
Oui, elles vendent au marché et souvent pour la consommation.
Et pour votre consommation propre?
J'ai dit le peu que nous vendons, c'est pour pouvoir payer les scolarités, les habits et puis autres besoins. La santé et autres.
D'accord. C'est important pour vous que les enfants aillent à l'école?
C'est très important. Parce que moi qui suis ici, là, c'est parce que j'étais un peu à l'école que j'arrive à écrire et à lire. Et adopter plus facilement les formations que je reçois de ma fédération.
Et alors, vous êtes propriétaire de votre terre?
Oui, nous sommes tous des propriétaires. C'est pour la famille, c'est l'héritage.
Oui. Donc, ça vient de plusieurs années, de plusieurs générations, ces terres.
De plusieurs générations, effectivement.
Il n'y a pas de... Vous vivez chacun en paix, les uns avec les autres. Il n'y a pas de personnes qui essayent de s'accaparer vos terres?
Non, il n'y a pas de personnes qui peuvent s'accaparer de nos terres, puisque déjà, il y a les... Comment on appelle mairie qui donne les attestations de détention terrienne. Les 4 hectares dont je vous parlais, là, c'est pour mes frères. C'est pour moi et mes frères. C'est D'accord. pour mes frères et moi.
D'accord. Donc, vous êtes une grande famille qui vivait sur cet héritage-là.
Oui.
Comment vous en sortez? Est-ce qu'il y a sur le Niger des exploitations beaucoup plus importantes, un peu style industriel?
C'est très, très rare. Dans ma zone, je ne connais pas.
Merci beaucoup pour votre témoignage.
Je vous en prie.
Merci beaucoup. Bon courage à vous.
Comme il l'a dit, depuis un moment, l'État du Niger a développé au niveau local plus décentralisé des structures de veille pour qu'il n'y ait pas de litige dans le partage d'héritage entre producteurs d'une même famille, parce que de plus en plus les terrains s'amenuisent.
D'accord.
Et ça a commencé à créer des conflits. C'est pourquoi l'État a mis en place ces structures de vigilance qui font que de plus en plus il y a moins de conflits entre les héritiers d'un même champ. Et aussi, à partir de il y a quelques années, l'État a constaté que des nouveaux riches qui sont nés vont payer à coût de plusieurs millions les champs des producteurs et les expolie carrément. Donc, tout ça, l'État a balisé de telle sorte que ces accaparements de terres puissent ne pas avoir lieu. Malheureusement, ce sont des gens qui ont les moyens, qui sont parfois très forts et qui passent par d'autres moyens pour acquérir ces terres. Donc, ces phénomènes, on les observe surtout autour des grandes villes telles que Niamey, autour des grandes villes, où c'est généralement des gens qui les prennent pour faire des lotissements et autres types d'appui et extraits carrément ces terres à l'agriculture. Maintenant, les grands projets d'expropriation ou d'accaparement qui sont connus au Niger, c'est vraiment une qui est dans la zone du lac Tchad actuellement, là où il y a le conflit avec Boko Haram, où là, malheureusement, c'est l'État même est en cause, où c'est laissé une firme saoudienne qui souhaite faire la production agricole, qui a dû acheter sur un contrat de 100 ans des terres de 120 000 hectares autour de cette zone qui est très fertile. Donc ça aussi, la société civile est en train de se battre pour que ce projet ne voit jamais le jour. Donc voilà un peu quelques dossiers chauds sur l'accaparement des terres qui sont malheureusement en train de venir petit à petit avec des gros moyens, mais la société civile se bat pour que ça ne s'implante pas de façon durable.
Alors Idrissa, on a compris avec le témoignage du producteur tout à l'heure que souvent les terres, c'est par héritage. Mais ceux qui n'ont pas de terres, est-ce qu'il y a possibilité d'en acheter? Est-ce qu'il y a possibilité de les louer? Comment ça se passe?
Vous pouvez acheter. Si vous n'avez pas de l'argent pour acheter, pour les ménages qui ont... Parce que les superficies qu'on a données, c'est les moyennes. Pour les ménages qui ont beaucoup plus de superficies qu'ils ne peuvent exploiter, ils arrivent, tu prêtes leurs terres à d'autres ménages qui n'en ont pas. Et là aussi, c'est balisé par des contrats de dons ou de prêts et qui sont faits par les commissions foncières au niveau des villages et au niveau des communes. Et l'autre moyen d'accéder, c'est vraiment la justice. Il vous a dit tantôt que les femmes membres de son ménage utilisent une partie des terres pour faire la culture de niébé et culture de sésame et autres. Il y a également les femmes qui peuvent jouir de l'utilisation de ces terres, mais sans avoir le pouvoir de décision sur ces terres-là. Donc voilà un peu quelques mécanismes actuellement en cours pour accéder à la terre pour ceux qui n'en ont.
Alors, vous parlez de récupérer des terres abandonnées ou de les restaurer, celles qui sont dégradées. Vous dites que la biodiversité de votre enfance s'est dégradée. Comment ça se traduit? Comment ça se voit?
Donc, depuis un moment, on a constaté que les terres qui sont dégradées, qui ne sont plus propices à l'agriculture, sont abandonnées par les... Donc, c'est là que également Morban intervient pour initier les gens aux techniques de récupération des terres. Oui. Et parfois, nous les accompagnons uniquement avec des renforcements de capacité pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Dans les endroits où on ne peut pas le faire eux-mêmes, alors là, nous intervenons pour mettre les moyens, aussi bien en apportant la formation, le matériel, pour récupérer les terres. Mais nous exigeons que derrière, les terres qui sont récupérées puissent être données en prêt sur au moins 10 ans à des jeunes ou à des femmes qui n'ont pas accès à la terre. Donc, c'est uniquement dans ces conditions que nous intervenons pour récupérer ces terres qui sont abandonnées. Mmh. Et c'est aussi un moyen pour permettre aux plus démunis qui n'ont pas accès à la terre de pouvoir accéder à la terre, notamment les jeunes et les femmes.
Voilà, nous arrêtons pour cette semaine et encore mille excuses pour la qualité du son qui est vraiment moyenne, mais nous n'avons pu joindre le Niger que par des systèmes WhatsApp et la qualité de temps en temps n'est pas au rendez-vous. Veuillez bien sûr nous excuser. Nous retrouverons la semaine prochaine la suite de ce bel entretien. Nous étions dans le Niger. Nous continuerons cet entretien dès la semaine prochaine avec cette fois-ci le volet de la commercialisation. Nous serons avec Oumou.